En l'an 2000, Jean-Paul II s'est tourné vers l'avenir avec cette question : que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous ? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre ? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nombreux progrès ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine éclairera le chemin des hommes du troisième millénaire. Alors, je voulais commencer par ces paroles parce que on va regarder la béatitude des miséricordieux qui va nous plonger dans le mystère de la miséricorde divine. Et je trouve que c'est une très belle parole prophétique de Saint Jean-Paul II qui avait voulu que l'année 2000 soit vraiment un grand jubilé qui entrait dans le troisième millénaire. Et quoi qu'il arrive, dit-il, la lumière de la miséricorde divine éclairera le chemin des hommes du troisième millénaire. Il a canonisé sœur Faustine, on aurait pu mettre ce soir le tableau de la miséricorde divine de sainte Faustine, qui avait eu une vision du Christ, qui lui a parlé de la miséricorde beaucoup. Et c'est lui, pape polonais, qui a canonisé cette sœur polonaise, première canonisée du troisième millénaire, sainte Faustine, dont tout le message a été de proclamer, de faire connaître la miséricorde divine. Elle a vécu à Vilnius, il y aura le congrès de la miséricorde divine bientôt en mars, je crois, ou avril, à Vilnius, pour faire connaître de plus en plus le grand message de la miséricorde du bon Dieu. Alors c'est dans cette lumière qu'on va regarder notre cinquième béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est le cœur de l'Évangile. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu. Le pape François le disait en disant « c'est le cœur battant de l'Évangile et l'Église doit le faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. » Donc faire parvenir la miséricorde de Dieu au cœur et à l'esprit de tous. Dieu est riche en miséricorde, dit saint Paul. Et je crois que dans toute la Bible, c'est la seule fois qu'on dit que Dieu est riche en quelque chose. On ne dit pas Dieu est riche en justice, on ne dit pas Dieu est riche en toute puissance. À ma connaissance, sauf erreur de ma part, relisez la Bible avec cette question peut-être, de quoi Dieu est-il riche? Et je crois que c'est la seule fois qu'on dit qu'il est riche en quelque chose. Il est riche en miséricorde. Et saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, disait que c'est l'attribut qui révèle le mieux la perfection de Dieu. Il disait « sa perfection consiste justement à faire miséricorde ». C'est l'attribut qui lui convient au plus haut point, parce qu'il faut être royal pour faire miséricorde. Il faut être Dieu, en fait, pour faire miséricorde. Et il y a une collecte de la messe, vous savez, c'est cette prière qu'on dit au début de la messe, après avoir dit le Kyrie, Seigneur prends pitié, le prêtre résume, collecte, on va justement, ça veut dire collérer, rassembler, eh bien, on se recueille et le prêtre dit, Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, répands toujours sur nous ta grâce. Et tu donnes la preuve suprême de ta puissance quand tu fais miséricorde, quand tu patientes et prends pitié. Ça peut nous réconcilier avec toutes les fois où arrive le mot tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, surtout dans le nouveau missel, là, le gros, qu'on vient d'avoir. Alors on y va tout le temps, la toute puissance de Dieu, et en première analyse, certains peuvent dire, bon, pourquoi on exalte tant la toute puissance? Moi, j'aime bien cette réponse, c'est de dire, au fond, c'est qu'il donne la preuve suprême de sa puissance quand il fait miséricorde. C'est ça qu'il faut entendre. Ce n'est pas le Tout-Puissant qui nous écrase. C'est le Tout-Puissant qui va utiliser sa toute-puissance précisément pour faire miséricorde. Alors, on va essayer d'entrer dans ce mystère ce soir, mais toujours avec l'axe de cette session, de ce parcours, qui est la charité fraternelle. Comment nous appuyer sur le mystère de la miséricorde divine pour devenir nous-mêmes miséricordieux, fraternellement miséricordieux. Alors, l'Écriture ne cesse de dire que Dieu est compatissant et miséricordieux, et ça commence très tôt, ça commence quand le peuple était en Égypte, en esclavage. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Vous voyez, Dieu parle à partir du buisson. Pourquoi avoir choisi, les rabbins se demandent, pourquoi il a parlé à partir du buisson, et pas à partir du sycomore ou à partir du chêne. Il a trouvé l'arbre le plus piquant du désert, l'arbre qui sert à rien, l'arbre stérile, et donc l'arbre qui symbolise en fait le pécheur. Quand un oiseau va dans un arbuste dans le désert, il risque de pas en sortir parce qu'il se pique de partout. Eh bien, en fond, c'est le symbole du péché, le buisson ici. Et vous savez que Dieu intervient dans le buisson ardent, le buisson se met à brûler, c'est ça qui attire Moïse. Ils voient un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il continue de brûler, et le feu n'a pas l'air de faire du mal au buisson. Et l'interprétation symbolique qu'on peut donner ici, c'est que le Seigneur voit bien le pécheur, il voit le pécheur dans son côté stérile, dans ses épines, son côté venimeux, son côté d'esclavage. Et pourtant, le feu de sa miséricorde va consumer ce pécheur sans le détruire. C'est donc pas le feu de la justice ici, c'est le feu de la miséricorde qui vient brûler de l'intérieur, comme le fils prodigue, on en reparlera, qui est consumé par l'amour de son père, mais pas détruit. Il est rétabli dans sa dignité de fils. Saint Augustin a cette belle parole, hein. Il est plus facile pour Dieu de retenir sa colère plutôt que sa miséricorde. Alors on le voit dans toute la Bible, mais j'aime beaucoup le prophète Osée. Israël a trahi, le royaume est sur le point de tomber, et la colère de Dieu donc devrait s'abattre, mais non, Dieu regarde son peuple et il dit en Osée 11, « Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. » Oui, c'est très beau. « Moi, je suis Dieu et non pas homme. » L'homme a des limites. Nous, on n'arrive pas à pardonner tout le temps. Le Dieu de bonté, lui, est sans mesure. Et le Seigneur dit, mon peuple, mon cœur se retourne en moi. Il ne dit pas, en fait, mon peuple n'est pas si mauvais que ça. Il ne cherche pas d'excuses. Il voit le péché dans toute son horreur. Mais il pardonne à cause de lui-même. Car je suis Dieu. Il va tirer de qui il est l'argument de sa miséricorde. Au nom de qui je suis, je fais miséricorde. Au nom de qui je suis, je pardonne. Et c'est très beau, c'est très noble en fait. Et il faut justement avoir une grande certitude, une grande autorité pour pardonner. Parce que je pardonne pas parce que tu es excusable. Je pardonne au nom de la dignité qui est la mienne. Au nom de qui je suis, je pardonne. C'est pour ça que saint Paul dit « Il est le Père des miséricordes ». Et Jésus va être le visage du Père. Qui me voit, voit le Père. Et toute sa vie, Jésus a fait miséricorde. Partout où il passait, il faisait le bien. Quand il voyait la foule affamée, ben, il nourrissait la foule. Quand il voyait des malades, il les guérissait. Quand il a vu la veuve de Naïm, qui lui a déjà rappelé sa pauvre maman, veuve au pied de la croix, il a ressuscité son fils et il lui a rendu son fils. À chaque fois qu'il posait son regard sur quelqu'un, c'était un regard de miséricorde. Surtout les pécheurs. Il avait pitié particulièrement des pécheurs. Il voit Zachée dans son arbre, ridicule. Et lui dit, descends vite, il faut que je demeure chez toi. Il voit Lévi, collecteur d'impôts, qui est un collabo, qui travaille avec les Romains, alors que les Romains oppriment le peuple. Eh bien, il lui dit, suis-moi. Et à ce moment-là, Lévi devient saint Matthieu. Il voit la prostituée qui pleure à ses pieds et lui parle avec douceur. Il voit le larron à ses côtés et lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » On pourrait regarder toute la vie de Jésus, partout où il passe. C'est l'expression même de la miséricorde de Dieu qui vient chercher les hommes, qui vient leur faire miséricorde. Alors ce soir, on va insister particulièrement sur un point, sur le fait que ce retournement intérieur de Dieu, mon cœur se retourne en moi, est en vue du retournement de notre propre retournement. Heureux les miséricordieux, ils deviendront miséricordieux. Heureux, vous voyez, on pourrait inverser, heureux à ceux à qui on fait miséricorde, ils deviendront miséricordieux. Toutes les béatitudes, prenez-les à l'envers, ça marche encore mieux. Je ne sais pas pourquoi Jésus les a mis à l'endroit. Vous voyez, c'est, si vous dites heureux à celui à qui on a fait miséricorde, alors il va devenir miséricordieux. On verra avec les cœurs purs. Heureux ceux qui voient Dieu, alors leur cœur est pur. Bien plus que heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Les deux sont vrais, mais en fait, c'est dans l'anticipation des promesses que se réalise déjà la béatitude. Donc heureux ceux qui anticipent la miséricorde plénière de Dieu pour eux, alors ils n'ont plus qu'à être miséricordieux avec les autres. Il leur a été tellement fait miséricorde, comment pourrait-il ne pas l'être avec les autres? Et c'est la miséricorde qui touche notre cœur. C'est la miséricorde qui va nous retourner les entrailles, nous aussi. Pensez à ce beau passage dans Les Misérables. Vous savez, quand Jean Valjean, je vous rappelle en deux mots, hein, il est sorti du bagne, mais il est amer. Il a été au bagne pour rien, pour avoir volé un peu de pain, et puis il a fait 19 ans. Simplement pour avoir volé du pain. Donc, il sort et la société le rejette puisque c'est un ancien bagnard. Alors, il erre, il est seul, et puis Monseigneur Bienvenu l'accueille et lui offre un toit et le repas. Mais Jean Valjean, il est tellement amer, tellement plein de désespoir, que finalement, il prend l'argenterie et s'enfuit. Vous vous rappelez de ce passage? Les gendarmes l'arrêtent et puis le ramènent chez l'évêque. Et là, Jean Valjean s'attend au pire. Et contre toute attente, Monseigneur Bienvenu ne l'accuse pas, il fait mieux. Il prétend lui avoir lui-même donné l'argenterie et lui donne en plus deux chandeliers. Vous avez aussi oublié ça. Et du coup, les gendarmes s'éloignent, un peu sceptiques sans doute. Et Jean Valjean, lui, il est sur le point de s'évanouir. Et l'évêque s'approche de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire des pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Et c'est à ce moment-là que Jean Valjean va totalement changer. C'est le moment où il reçoit la miséricorde, que lui-même va être miséricordieux, il va sauver Fantine, il va adopter Cosette, etc. Donc vous voyez, le don de la miséricorde, la réception de la miséricorde a retourné son cœur, de sorte qu'ensuite il peut être miséricordieux. Et c'est ce qu'on voit aussi avec l'épisode du fils prodigue. Souvenez, un enfant, il demande l'héritage à son père de son vivant, ça veut dire qu'il veut tuer son père, puisqu'on reçoit l'héritage après la mort, normalement. Donc là, il dit, donne-moi toute ma part d'héritage. Et on dit qu'il rassemble tout, il part dans un pays lointain. Pays lointain, ça veut dire qu'il est très loin de son père, désormais. Il a tué son père, il s'est éloigné de son père. C'est l'image même du pécheur. Et là, c'est la famine, bien sûr, puisque le péché ne rassasie jamais. Au bout d'un moment, il est dans la famine. Et puis il fait le point, au moment où il jalouse les cochons qui ont des caroubes au moins à manger, et lui il se dit, mais chez mon père il y en a encore qui mangent, donc je vais revenir chez mon père et je dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais vous voyez que l'intention ici, on dit souvent c'est ça la conversion du fils prodigue, non? Non, parce qu'ici je vois aucun rapport avec il n'a pas découvert la bonté de son père encore. Il pensait que son père l'opprimait, il continue de penser que son père l'opprime, et que donc il ne va pas être fils en rentrant, il va être un des ouvriers. Il reste dans la même logique de justice. Mon père est injuste avec moi, je me casse, mais moi j'étais injuste avec lui, donc je suis plus digne. On reste dans la même logique de dignité, de mérite, de justice. Pour l'instant, on n'est pas entré dans la miséricorde ici. Donc il n'y a pas de véritable conversion. Et puis tout d'un coup, il revient, et là, c'est son père qui court vers lui, qui le couvre de baisers, qui lui met une nouvelle robe, qui va lui, comme il est va nu-pied, Il va lui mettre des sandales aux pieds, il va lui remettre un anneau au doigt, il va tuer le veau gras, ils vont faire la fête. Mon fils qui était mort est vivant, il était mort, il est revenu à la vie. Et là, il se convertit. C'est là que tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle une métanoïa, une conversion, changer de regard. Là, tout d'un coup, il regarde son père différemment. Il découvre que son père est un père et non pas un juge. Et bien, c'est cette conversion qu'il faut avoir si on veut vraiment devenir miséricordieux. On ne l'aura pas tant qu'on aura un regard sur Dieu qui est un Dieu de justice, qui compte les points et qui, à la fin, va faire passer un examen en disant, selon qu'on a des gommettes noires ou des gommettes blanches ou je ne sais pas quoi, et à chaque péché, il rajoute une gommette. Tant qu'on aura une vision de Dieu comme ça, on est à côté de l'évangile. Cet évangile de Luc 15, là, c'est ce qu'on appelait l'évangile dans l'évangile, ou l'évangile de l'évangile. Les pères de l'Église disaient ça. Donc c'est le cœur, pour les juifs, le cœur, c'est l'introduction, la conclusion, vous vous souvenez, pour les occidentaux. Pour les orientaux, c'est le centre, c'est le cœur. Donc le cœur de l'évangile, c'est ça. Et c'est à partir de ça qu'on doit interpréter tout le reste, à mon avis. À partir de là, une fois que j'ai reçu tellement de miséricorde, qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi, qu'être miséricordieux ? On m'a pardonné 1 million de fois, est-ce que je ne peux pas pardonner 100 fois ? Alors, il faut quand même faire attention à une objection des philosophes. Très souvent, les philosophes n'ont pas aimé du tout la miséricorde et la pitié, notamment, qui sont proches. Par exemple, les stoïciens, des philosophes de l'Antiquité grecque, et puis les romaines aussi, disaient que le sage est sans pitié, puisqu'il est sans chagrin. Le sage, il est heureux, il est zen, il est sans chagrin. Et donc, il est sans pitié, puisque la pitié vous remue les entrailles. C'est pas sage de se les remuer les entrailles comme ça. Le sage, il est dans sa tête, il contrôle, c'est bon. Et donc, très souvent, les philosophes vont pas aimer la pitié. Même Spinoza, qui est très à la mode en ce moment, il écrit « La pitié chez un homme qui vit sous la conduite de la raison est en elle-même mauvaise et inutile. » Ouais, ça choque un peu, mais ça choque moins que Nietzsche. Alors Nietzsche, lui, il n'a aucun problème de dire qu'il est contre la pitié. Il en a horreur, même. Il dit « La compassion est l'opposé des émotions toniques qui élèvent l'énergie et le sentiment vital. Elle a un effet déprimant. » Oui, c'est déprimant de voir des pauvres et d'en avoir pitié, oui. Donc lui dit « Non, c'est un mauvais sentiment, c'est déprimant, c'est une passion triste. Elle donne à la vie un aspect sinistre et équivoque. » Alors, derrière les exagérations des philosophes et même de Nietzsche, il faut toujours faire attention quand quelqu'un exagère, comme les caricatures. Si les gens rient quand ils voient une caricature, c'est que c'est pas lui, mais c'est quand même lui, quoi. Donc c'est pas faux, il a raté la cible, mais il a pas raté la porte. Il y a quelque chose qui est quand même un peu juste. Stefan Zweig a écrit un ouvrage qui s'appelle « La pitié dangereuse ». Où on voit un homme, Anton Hofmiller, qui, en voulant être bon avec quelqu'un, finalement arrive à une tragédie terrible. Et donc la bonté, vous voyez le côté qui reste à la simple pitié et qui n'est pas sage, peut aboutir à son contraire. Donc ça, il faut quand même l'entendre. Alors du coup, je vous propose de clarifier un petit peu ce qu'on entend par miséricorde. Le mot miséricorde vient du latin misericordia, et vous avez donc miseria, la misère, et puis vous avez cor, le cœur. Donc c'est tout simplement, c'est le cœur ouvert à la misère d'autrui. Hein, c'est quand l'amour voit la misère d'autrui, eh bien l'amour devient miséricorde. Le cœur s'ouvre à la misère et il trouve une raison pour aimer, eh bien c'est ça la miséricorde. Mon cœur en moi est bouleversé et toutes mes entrailles frémissent. Rappelez-vous, oser. Alors regardons les mots dans la Bible. Vous savez que l'Ancien Testament est généralement écrit en grec, en hébreu, pardon. Il y a quelques textes en grec, mais tardifs. Et puis le Nouveau Testament, il est en grec. Et en hébreu, vous avez deux mots, en fait. Un féminin, un masculin. Vous avez rachamim, qui désigne en fait Le fait d'aimer, mais le ventre maternel. Rahamim, c'est les entrailles, et c'est même l'utérus. Et donc c'est mon cœur, mes entrailles se retournent en moi. Ça, c'est l'hébreu rahamim. En grec, vous entendez même le mot, on entend qu'il s'agit des entrailles, c'est splachma. Donc là, vous dites, ah ouais, c'est plutôt du côté des entrailles, ça. Et on le dit, Jésus, il fut remué jusqu'aux entrailles. Il y en a ça qui revient de temps en temps dans l'évangile. Bon, et ben c'est exactement ce mouvement de la miséricorde, ce mouvement maternel. Quand l'enfant souffre, la mère souffre. Mais vous avez aussi un mot masculin. C'est très important d'équilibrer toujours, on aura envie de dire le yin et le yang, le masculin et le féminin. En masculin, c'est chesed. Chesed, on traduit parfois la fidélité, même l'amour. Il y a un psaume qui dit il a fait ceci, il a sorti les Égyptiens, il a libéré le peuple, car éternel est son amour, car éternel est son amour, ça revient constamment. Et en fait, c'est car éternel est son chesed, donc sa miséricorde, il faudrait traduire. Mais on peut dire amour, on peut dire grâce, c'est un mot qui peut se traduire de bien des manières. Ça s'emploie pour dire l'alliance, en fait, la fidélité. Et c'est masculin. Et en fait, il faut les deux. Vous regardez ce tableau, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on le dit souvent, beaucoup l'ont remarqué, donc si vous êtes déjà intéressé à le retour du fils prodigue de Rembrandt, il a peint une main manifestement masculine et une main plus féminine. Il y en a une qui est plus épaisse, l'autre qui est plus fine. Et donc on dit, tiens, il a exprimé la miséricorde du Père avec ses deux aspects masculin-féminin. Parce qu'on peut avoir une miséricorde féminine, une mère arrivera jamais, au fond, parfois, à punir son enfant alors qu'elle le devrait. Le père, il le fera, mais il n'a pas la main douce. Et vous voyez, un petit quelque chose comme ça, il faut que la miséricorde ait une face masculine et féminine pour ne pas tomber dans une caricature. Et alors, ce mot chesed est traduit, c'est celui qu'on entend quand on dit Kyrie eleison, c'est eleos en grec, chesed. Et donc, quand vous dites Kyrie eleison, c'est eleos, Seigneur, prends pitié. Oui. C'est prendre pitié, mais sois fidèle aussi. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas simplement pour nous amuser avec les mots, par souci de précision linguistique. Mais c'est parce que c'est très important de comprendre qu'il y a deux aspects dans la miséricorde. Il y a un frémissement des entrailles, et ensuite il y a quelque chose de fidélité, d'activité. Et si vous n'avez pas cet aspect, alors on retombe dans l'objection des philosophes, comme un philosophe qui s'appelle Alain qui disait « la pitié ne va pas loin ». Et en fait, c'est vrai. Si la pitié, c'est simplement d'avoir les entrailles remuées, et je porte jamais secours à l'autre, la pitié ne va pas loin. Tu vois des gens qui souffrent et tu as une petite larme à l'œil, c'est mieux que si tu étais avec les yeux secs. Mais tu fais quoi? Donc la pitié ne va pas loin, le rahamim, pardon, ça va pas loin s'il n'y a pas chesed. Il faut maintenant faire alliance avec celui qui souffre. Et donc on va voir, il y a ces deux aspects. Alors, magnifique définition de saint Augustin, très précise. La miséricorde, dit-il, est la compassion que notre cœur éprouve en face de la misère d'autrui, sentiment qui nous pousse à lui venir en aide si nous le pouvons. Vous voyez, vous avez deux aspects ici. La miséricorde, c'est la compassion de mon cœur face à la misère d'autrui. Là, c'est rahamim. Sentiment qui nous pousse à lui venir en aide si nous le pouvons. Chesed. Et donc, porter secours. Je suis touché parce que j'ai vu la misère de l'autre et je lui porte secours. Vous avez en fait trois moments dans la miséricorde. Vous pouvez manquer de miséricorde de trois manières. Soit parce que vous n'avez pas vu, soit parce que, ayant vu, vous n'avez pas été touché, soit parce que, ayant vu et ayant été touché, vous n'avez rien fait. En fait, il y a trois moments de la miséricorde. Je vois que tu souffres, j'en suis ému, et je te dis qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et je fais quelque chose pour toi. C'est ce que vous avez exactement dans le texte de l'Exode au buisson ardent. J'ai vu la misère de mon peuple. Dieu a vu. Il dit c'est mon peuple, donc on peut identifier le deuxième moment ici. C'est pas j'ai vu la misère d'un peuple. C'est mon peuple comme une mère, c'est mon enfant. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez, je vois, J'en suis ému, je descends pour le délivrer. Alors il va y avoir deux exercices de la miséricorde, deux exercices fondamentaux qui nous sont montrés dans la Bible, le pardon des péchés et le secours des indigents. On pourrait dire qu'il y a la miséricorde du cœur et il y a la miséricorde des mains. Alors, commençons par dire un mot de la miséricorde du cœur, le pardon essentiellement, puis on dira ensuite un mot sur la miséricorde des mains, les œuvres de miséricorde. Du haut de la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, elle est bizarre cette phrase. Pardonne-leur, ok, mais il ajoute une excuse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est étrange parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ben, leur faute est une erreur, pas un crime. Dès lors, il n'y a pas à leur pardonner, il y a juste à les excuser, ils ne savaient pas. On excuse l'ignorant, on pardonne le méchant. Alors, il y a des deux, c'est-à-dire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de tuer un innocent, ils le savaient. En revanche, ils ne savaient pas que c'était Dieu. Donc, effectivement, ils savaient quand même, ils sont très coupables, pardonne-leur, parce qu'ils sont en train de faire un homicide. Par contre, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire un déicide. Ils auraient pu le savoir, il y avait des signes quand même. Il faisait des miracles, Jésus, il faisait des choses. Mais Jésus quand même trouve l'excuse sur le déicide, mais il reste que l'homicide n'est pas excusable. Alors il est quoi ? Il est précisément pardonnable. Vous pardonnez à quelqu'un précisément parce qu'il n'y a pas d'excuse. Sinon il serait excusable. Alors vous pouvez pardonner une circonstance excusée à cause d'une circonstance atténuante, mais pour ce qui est pas, pour ce qui reste de non... circonstances atténuantes, il n'y a pas d'excuse, il reste à pardonner. C'est Yankelevitch qui dit ça, un philosophe juif qui a beaucoup réfléchi sur la Shoah et sur le pardon. Il parle des nazis ici, de ceux en tout cas qui ont perpétré la Shoah. Ils sont méchants, mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut leur pardonner. Car ils sont encore plus malheureux que méchants. Ou mieux, c'est leur méchanceté elle-même qui est un malheur, l'infini malheur d'être méchant. Je te pardonne pas parce que finalement c'est pas si méchant. Je te pardonne précisément parce que tu es méchant. Et qu'il n'y a pas de plus grand malheur que d'être méchant. Donc ta misère est beaucoup plus grande que la misère de ce que tu m'as fait. Donc vous voyez, la miséricorde pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, non parce que ceux-ci ne seraient pas vraiment haineux, méchants ou mauvais, mais précisément parce qu'ils le sont. Et c'est là qu'on voit que la miséricorde est un acte, le pardon est un acte de miséricorde, c'est-à-dire c'est le cœur qui voit la misère morale de l'autre. Je pardonne dans la mesure où je vois que l'autre est finalement misérable. À partir du moment où j'arrive à voir ça, je commence à pouvoir pardonner. La miséricorde des mains. Un jour, après avoir visité une léproserie aux Philippines, la grande actrice américaine Ava Gardner, enfin une grande actrice des années 50, 40-50 même, a dit à une religieuse, elle était bouleversée par la léproserie et le travail des religieuses là-bas, elle a dit « Ma sœur, pour 10 millions de dollars, je ne ferai pas une heure de ce que vous faites. » Et la religieuse a répondu du tac au tac « Pour 10 millions de dollars, moi non plus, madame. » Et donc, ce n'est pas 10 millions de dollars qui vont permettre aux religieux du monde entier, aux prêtres, aux laïcs, à tous ceux qui se dévouent depuis 2000 ans d'histoire du christianisme, de risquer d'attraper la lèpre avec les lépreux, comme Saint Damien à Molokai, de recevoir la lèpre et d'en être presque fier, parce que désormais il est vraiment l'un d'eux. Ce n'est pas 10 millions de dollars qui vont faire ça. C'est le sentiment que la miséricorde de Dieu nous pousse, nous contraint à faire miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent, c'est-à-dire donc recède à leur porter secours. Alors j'aimerais justement terminer par ce passage magistral donné par Jésus, cette parabole du bon samaritain, pour la regarder d'un petit peu près, Elle est vraiment l'image même de ce qui convient de vivre du côté de la miséricorde des mains. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors c'est une route qui fait à peu près 27 km, une journée de marche en gros, et elle traverse le désert de Judée, donc on est au sud de la Galilée, il fait très chaud, au sud de la Terre Sainte, hein, il fait très chaud là-bas vers Jérusalem, donc Jérusalem est en Judée, et elle est déserte et dangereuse, c'est un coupe-gorge, on l'appelait la voie sanglante, Via Sanguinaria. Donc voilà, elle était réputée pour être vraiment la route par laquelle il faut éviter de passer. En tout cas, si on y va, il faut faire vite. Et alors évidemment, là, le pauvre, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Bon, c'est une histoire comme tant d'autres, malheureusement. L'homme a toujours été un loup pour l'homme, depuis Caïn qui a tué son frère Abel. Que de souffrances causées par la méchanceté des uns et des autres. Alors ce pauvre homme est donc à moitié mort, dit Jésus. Il est sans force, il ne peut plus rien pour lui, il va sans doute mourir là, seul, en plein désert, les vautours vont venir bientôt, à moins qu'une main généreuse n'intervienne. Alors Jésus continue la parabole. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Ah, on a donc un prêtre et un Lévite, deux religieux. Alors, est-ce qu'ils allaient de Jérusalem à Jéricho ou de Jéricho à Jérusalem? On nous dit, il était sur la route de Jéricho. Un prêtre descendait, descendait. Donc il va de Jérusalem à Jéricho, puisque Jérusalem est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde, à peu près 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc ça veut dire qu'ils viennent de Jérusalem, le prêtre et le lévite. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Jérusalem? Ils ont été au temple, ils ont écouté la Torah. Peut-être eux-mêmes ont prêché la grande miséricorde de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu qui fait miséricorde, car éternel est son chesed. Ils ont chanté ce psaume peut-être. Et voilà que eux ils redescendent, ils voient un type dans la misère et ils passent à côté. Alors les blâmons pas trop, on pourrait imaginer, moi si j'étais leur avocat, l'avocat de la mafia, je pourrais faire une plaidoirie, comme si je dirais, mais ils étaient un peu pressés, on les attendait à la maison, leur femme aurait pu s'inquiéter quand même. Je pourrais dire, mais en plus, la route était dangereuse. Ils pouvaient eux-mêmes être attaqués. On sait que c'est une route dangereuse. Donc, à quoi bon sauver quelqu'un si soi-même on est attaqué aussi Et puis, en fait, l'homme était à moitié mort. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Foutu pour foutu, ben, ciao. Et puis, en plus, si l'autre, il mourait entre leurs mains, ben, il pourrait être accusé. Donc, bref, valait mieux pas s'attarder. Messieurs les jurés, vous en jugerez vous-même. Mais, dit Jésus, un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Oui, il le vit, premier moment de la miséricorde, il fut saisi de compassion. Deuxième moment, il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile puis du vin. Et il changea, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et contrairement aux prêtres et aux lévites, le Samaritain y voit, il en est ému et il prend soin de lui. Peut-être que les autres l'ont vu, ça c'est sûr. Peut-être même qu'ils ont été émus, mais ils n'ont pas pris soin de lui. Or c'est ça la miséricorde. Et Jésus est taquin, il dit que c'est un Samaritain. Vous vous souvenez que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. Les Juifs méprisaient les Samaritains parce qu'ils les considéraient comme idolâtres, hérétiques, etc. Alors, c'est intéressant ça aussi. Ça veut dire que ce Samaritain sait très bien que ce Juif qui est à demi-mort, il le méprise. Il sait très bien que si la situation était inverse, le Juif passerait son chemin, probablement. Il le considérait comme un chien de païen, et puis voilà, enfin comme un chien d'idolâtre. Et donc Jésus, en disant que c'est un Samaritain, ajoute encore un relief à cette miséricorde. Pourquoi l'aider? Pour lui, je suis qu'un chien, je suis un maudit. Ben non, il va l'aider. Voilà un homme donc vraiment miséricordieux, il ne se contente pas de voir et d'être ému, il fait quelque chose. Il panse ses plaies avec du vin et de l'huile, le vin sans doute pour, en tant qu'alcool, il doit y avoir quelque chose de désinfectant, l'huile, le baume, et puis il le charge sur sa monture. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Et donc là, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non seulement, il fait what else, quoi. Il a pris soin de lui, il le met sur sa monture, il l'amène à l'auberge, il doit partir, donc il dit qu'il va revenir pour payer à sa place. Donc là, Jésus montre la surabondance, en fait, de la miséricorde divine dont nous devons participer. Et c'est là la promesse, bienheureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, mais alors cette fois avec une surabondance infinie. Voilà, et ça se termine comme ça, va toi aussi, fais de même. Voilà, puissions-nous faire de même, avoir la grâce de faire de même. Bonne conversation entre vous.